Voici donc mon exposé d'entrée du carême. Nous allons parler des papes face à la Renaissance. À la sortie du grand schisme, l'Église ressentait le besoin de reprendre des forces, en particulier sur le plan politique. C'était l'époque où les grandes puissances accentuaient leur pouvoir sur les petites principautés de l'Italie. La papauté se tournait vers les choses de la terre. Sixte IV, qui a régné de 1471 à 1484, a été un grand prince de ce monde, mais il fut médiocre en tant que pape. Il lutta contre les Médicis, excommuniant Laurent le Magnifique, dont le fils, soit dit en passant, fut pape 50 ans plus tard, sous le nom de Léon X. Sixte IV fit la guerre contre lui. Il favorisa de grands travaux à Rome. Il fit construire la chapelle Sixtine. Son successeur, Innocent VIII, continua les travaux et mena une vie dissolue, pratiquant le népotisme avec application. Il contraignit le roi de Naples à lui payer tribut. C'était bon pour ses finances. Le pape suivant, Alexandre VI Borgia, fut un des papes les plus tristement célèbres. Neveu de Calixte III, qui le fit cardinal alors qu'il n'avait que 25 ans, il fut un objet de scandale. D'abord par les intrigues qu'il noua en vue de favoriser son élection, ensuite par les enfants qu'il eut de deux concubines, Rosa Catanei, mère de Lucrèce Borgia, et Julia Farnèse. Il régna de 1492 à 1503. Son dérèglement moral fit la joie de des multiples ennemis de l'Église, dont Voltaire et Diderot. Son activité comme prince laïque est néanmoins intéressante. Il lutta contre les petits tyrans italiens, forma une ligue contre Charles VIII de France, devant laquelle il s'inclina avant de s'allier à Louis XII. C'est sous son règne qu'eut lieu la découverte de l'Amérique. Il préconisa l'évangélisation des conquêtes et délimita les zones espagnoles et portugaises selon un méridien. De nos jours, cela se traduit par la frontière entre le Brésil, zone portugaise, et les autres pays de langue espagnole. Ce n'est pas si mal vu. Je me suis amusé à comparer les surfaces actuelles des pays, y compris la Patagonie, qui alors était inconnue. Il y a 8,5 millions de kilomètres carrés pour le Brésil et 9 millions pour le total des autres pays. C'était donc très bien vu. Alexandre VI mourut, dit-on, empoisonné. Ce ne fut pas un mauvais politique, mais il fut un pape très discutable. Notons cependant que malgré ses écarts de conduite, sa doctrine est restée fidèle à l'enseignement millénaire de l'Église. Il n'a jamais déclaré que les prêtres évêques, encore moins le pape, avaient le droit de se marier, même s'il eut des concubines. Le successeur d'Alexandre VI, Pie III, ne régna que 26 jours. Il fut suivi par Jules III, qui a régné de 1503 à 1513, donc 10 ans. Ce pape lutta pour l'indépendance de l'Italie. Il rendit la papauté plus puissante, mais moins vénérée de l'Europe. Elle était devenue un État comme les autres. Jules II entra en conflit avec un concile formé de quelques cardinaux à la suite d'une avalanche de pamphlets de toutes origines attaquant sa soif de puissance. L'un d'eux le représente devant Saint-Pierre défendant des actions politiques, ce à quoi il lui a répondu que l'Église n'est pas le domaine de Saint-Pierre mais celui de Dieu. Jules II était l'ennemi déclaré de François Ier, une des raisons qui conduisit Rabelais à l'envoyer dans son pittoresque enfer comme vendeur de petits pâtés. Le successeur de Jules II fut Léon X, 1511-1521, un fils de Laurent le Magnifique, lui aussi un authentique prince de la Renaissance, heureux dans des guerres qui ont agrandi le domaine de Saint-Pierre à défaut de celui de Dieu. Il fut un grand protecteur des arts. Il avait de l'enthousiasme pour l'Antiquité. Il protégea les artistes, commanda à Michel-Ange les tombeaux des Médicis. Pour soutenir des finances fatiguées, il renouvela les indulgences accordées par Jules II aux généreux donateurs. Cela scandalisa. Le salut des âmes acheté par des pièces roulant dans un tronc. Un prédicateur disait même, au son de la pièce qui sombre, l'âme s'envole au paradis. Cela fait penser aux pharisiens jetant leurs pièces par poignées sous les yeux de la pauvre veuve qui ne donna qu'un sou. Ce pape inspirait donc peu de respect, en particulier des Allemands, qui se scandalisaient de la pompe déployée à Rome. Le protestantisme s'annonçait. On se prosterne davantage devant les saints que devant Dieu. Avant d'être artiste, il faut être chrétien. Les splendeurs des réalisations n'impliquent pas celles de la foi. Il ne faut pas séparer l'âme du corps, même lorsque celui-ci montre des défaillances. Les découvertes importantes comme l'Amérique ou l'étude des mouvements de la Terre autour du Soleil ont été la source de violentes discussions où s'affrontaient ceux qui voyaient dans la Bible essentiellement le message de Dieu sauveur et ceux qui voulaient le lire à la lettre en voyant un caractère sacré dans le moindre de ses affirmations sur le plan matériel. Cela existe encore de nos jours. Certains se disent persuadés que les animaux étaient herbivores avant le péché de l'homme, comme si les dents des tyrannosaures pouvaient brouter de l'herbe. Les discussions sur les hommes préhistoriques, sur l'âge de l'humanité, causèrent des ravages au XIXe siècle. Darwin a tenté de remplacer le Dieu créateur par une force mystérieuse qui engendra de belles lois, mais dont on ne saurait déterminer l'origine. Effectivement, on ne peut affirmer n'importe quoi. Avec l'imprimerie, les traductions de la Bible se multipliaient. Si la Vulgate, traduction de saint Jérôme datant du IVe siècle, était toujours considérée comme une référence, on nota au XVIe siècle plus de 90 éditions en latin et 13 en allemand pour ne parler que de celle-ci. Le pape et les conciles tentèrent de mettre un peu d'ordre. Le pape Alexandre VI déclara « Nous nous réjouissons de voir les érudits abonder dans l'Église, mais pour éviter tout écart, nous précisons qu'aucun ouvrage ne paraisse sans être passé devant l'autorité épiscopale. C'est la naissance de l'imprimature. » C'était aussi l'annonce de l'index, une liste qui prescrivait que certains ouvrages ne devaient être abordés qu'avec le conseil d'un directeur spirituel. La Bible a été longuement à l'index, car il ne s'agit pas d'un livre à l'eau de rose. Il s'agit du massacre lors de la conquête de la Judée. Notons par exemple, après la prise de Jéricho, il est dit « Femmes, enfants, vieillards, jusqu'aux brebis et aux ânes ont été passés au fil de l'épée. » Qu'il s'agit de cette femme morte après avoir été violée toute la nuit puis découpée en petits morceaux envoyés à ses vengeurs, c'est dans le chapitre 20 du livre des Juges. Qu'il s'agit de Tamar déguisée en prostituée afin de se faire faire un enfant par son beau-père, ou des filles de Lot qui enivrèrent leur père pour concevoir des héritiers, etc., etc., nous sommes loin de la comtesse de Ségur. Certains pensent que la Bible n'a guère plus de valeur que des légendes païennes les plus débridées, alors qu'il s'agit d'un livre inspiré par Dieu lui-même à de pauvres créatures. La Bible n'est pas un livre scientifique. Si elle avait été présentée il y a 3000 ans avec tout notre savoir actuel, elle aurait été prise pour un ramassis d'extravagance. Un certain Baronius a dit à Galilée « Mon cher fils, la Bible nous dit comment aller au ciel, mais non comment il est fait. » L'affaire Galilée est un bon exemple de cette confusion. On ne saurait conclure du fait que la course de la Terre autour du Soleil est contraire à l'enseignement d'Aristote que la théologie est mensongère. Galilée se vantait d'avoir découvert le mouvement de la Terre autour du Soleil. En réalité, le Soleil n'est pas plus fixe que la Terre, les deux se meuvent au sein d'une galaxie. Au fait, où est le point fixe? Galilée donc en déduisit et affirma que la Bible ne pouvait être acceptée comme parole inspirée, ce qui fut normalement condamné. Il a fallu de longues discussions pour faire admettre que l'immobilité relative du Soleil n'était pas une vérité de foi. À noter que Galilée ne fut pas condamné à être brûlé, mais seulement une résidence forcée dans un beau château. Ce genre de discussion oiseuse continue avec les fondamentalistes qui veulent lire la Bible à la lettre sans trop chercher à comprendre comment Noé a pu nourrir tous les animaux de son arche pendant 40 jours, ni comment Salomon s'occupait de ses 500 femmes, dont 200 concubines. Et 200 concubines, parce que le marché avait 700 en tout. Il est certain que les progrès scientifiques ont conduit à une autre lecture de la Bible que son sens littéral, ont conduit à y chercher la substantifique moelle, plutôt que des détails plus ou moins scabreux. La Bible cherche donc, est un témoignage de notre situation de créature aimée de Dieu, rachetée par lui et entourée d'amour, face à un ennemi ivre d'orgueil. Notons enfin le problème des traductions, car si la Bible est inspirée par Dieu, ce n'est pas toujours le cas des traducteurs. Par exemple, en ce qui concerne notre Père, une étude exhaustive faite par le Père Basile du Barreau a montré toutes les nuances possibles à propos de la sixième demande « Ne nous laissez pas succomber à la tentation ». Ne nous conduisez pas, ou dans une version grecque, ne nous laissez pas glisser dans la tentation. Il faut s'attacher à l'esprit plutôt qu'à la lettre. Le concile de Latran, mené à la fin sous Jules II, demandait aux prédicateurs d'insister sur le peu de valeur de chacun, de nous, de notre néant, vis-à-vis de la parole de Dieu, plutôt que d'insister sur la fin du monde. Il est encouragé à mettre en parallèle l'Ancien et le Nouveau Testament, la chute de Dève et l'Annonciation, Joseph vendu par ses frères et le Christ vendu par Judas, Melchisédek et l'Eucharistie, etc. Restons dans la spiritualité. Surtout dans ce temps du carême qui s'ouvre, je vous souhaite donc, selon la formule, consacrer un bon carême et serai tout heureux de vous revoir le mois prochain, alors que Pâques sera à l'heure. Encore merci.